Bleu Provence, tous experts. Véronique Lopez.
Allez, vous avez des questions concernant le droit de la famille? Elle est ce matin avec nous pour répondre justement à vos questions, Maître Karine Aroutunian. Appelez-nous 04 42 38 08 08. Vous savez qu'elle est toujours de bons conseils. Karine, bonjour.
Bonjour.
C'était compliqué pour venir ce matin.
Hein. C'était compliqué, comme souvent le mardi.
Karine, alors si par exemple on a envie d'adoption, on ne sait pas par quel bout le prendre, c'est quoi les premières démarches à faire?
Alors, la première démarche à faire, c'est aller chez le notaire. Et oui, je vois votre air interloqué, mais
ah oui,
il faut aller chez le notaire parce que d'abord, il faut avoir signé un document qui s'appelle un acte d'acceptation à adoption. Alors, je vous donne un exemple. Si par exemple, moi, ce qui m'arrive assez souvent, c'est des couples, enfin, comment dirais-je, recomposés. Mm-hmm. Le mari veut adopter l'enfant de son épouse parce que, par exemple, il n'a pas eu d'enfant ou qu'il a élevé cet enfant comme le sien.
Okay.
Ça, c'est assez courant. Et ils veulent adopter, donc le mari veut adopter l'enfant de son épouse. Donc, en premier, il faut aller chez un notaire pour signer un acte comme quoi on est d'accord pour être adopté ou pour adopter. Et 2 mois plus tard, il faut réitérer cet acte comme quoi on n'a pas renoncé à l'adoption. Je précise qu'il faut être marié dans ces cas-là, parce que les gens ne le savent pas. Souvent, ils viennent, ils sont tout étonnés qu'il faille passer devant le maire et acheter une dragée.
Ouais.
Et moi, je leur dis, si vous n'êtes pas marié, c'est pas possible. Donc après, il y a tous les cas de figure. Adoption simple, adoption plénière. Je traduis ce jargon.
Ouais.
Simple, c'est quand vous ne perdez pas votre lien biologique avec l'autre parent. Donc si le nouveau mari de votre mère veut vous adopter, vous ne perdez pas votre lien biologique avec votre papa. Voilà. Ce qui est intéressant, parce que vous pouvez à ce moment-là hériter à la fois de votre papa biologique et de votre papa adoptif. Par contre, si vous faites une adoption plénière, ça veut dire que vous perdez le lien avec le parent biologique et que vous n'êtes plus que l'enfant du père adopté. Donc c'est un exemple, mais c'est quelque chose que j'ai souvent parce que les couples recomposés ou les gens qui élèvent leurs enfants, enfants des autres, le lien d'affection va se prolonger jusqu'à l'héritage.
D'accord, super. Ben, merci pour ces petites précisions concernant l'adoption. On a Guy en ligne. Bonjour Guy.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'Orognac.
Oui.
Et vous avez une question pour Karine. Allez-y.
Tout à fait, oui. C'est parce que j'ai ma fille qui a 17 ans, qui est partie de chez sa mère il y a quelques temps en arrière. Elle souhaite venir vivre chez moi. Donc, je ne veux pas trop me mettre en porte-à-faux avec sa maman. Déjà que je ne m'entends pas du tout avec elle. Donc, savoir comment je peux faire.
Alors, Guy, votre fille, elle a eu 17 ans depuis quand?
Au mois de juillet.
Juillet, ok. Donc, il faut encore un an pour qu'elle soit majeure. Et elle est partie donc depuis quand de chez sa mère?
Ça fait quelques temps. Hein.
C'est quoi quelques temps? C'est un mois, 2 mois, un an?
Ça fait un mois, plus
un mois. Bon, ça va, c'est récent. Donc moi, ce que je vous conseille, Guy, c'est d'attendre encore un petit peu, parce que mon expérience me dit que bien souvent, les enfants, au bout d'un moment, changent d'avis. Il y a des conflits avec la maman, on ne s'entend pas, on a 17 ans, on s'oppose à sa mère, on devient soi-même, on commence à être une jeune femme, alors on n'est pas d'accord, etc. C'est pas pour vous mettre le moral en berne, hein, mais ce que je veux dire, c'est que attendez un petit peu de voir si c'est pas juste une crise passagère et que vous allez mettre en branle tout un tas de choses. Donc si vraiment, parce que votre fille, elle sera majeure dans un an. Dans un an, elle ira un peu où elle veut. D'accord ? Le souci, c'est qu'entre le moment où vous pouvez avoir une décision, on va dire, pour le premier trimestre 2020. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, en ce moment, c'est quand même relativement encombré. Il y a une réforme en janvier. Ils essayent de tout liquider au niveau des... Enfin, pour les statistiques, donc de purger tous les dossiers en cours pour le 31 décembre 2019. Bon, ce que vous devez faire, en tout cas, vous me demandez quelles sont les démarches. Les démarches sont simples. Vous pouvez aller voir un avocat, soit, si vous ne vous sentez pas de le faire seul, vous allez voir un avocat qui va saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de votre fille et il va demander à ce que sa résidence, vous allez demander à ce que la résidence de votre fille change et vienne et soit fixée chez vous parce qu'elle vit chez sa mère. D'accord ? Voilà. Sinon, si vous vous sentez de le faire seul, il y a des formulaires sur le site du gouvernement, des formulaires CERFA, juge aux affaires familiales. Vous remplissez le document, tout ce que vous vous demandez et là, vous attendez d'être convoqué. Ce qui, à mon avis, ne va pas se faire sous ce format-là. Je ne veux pas être désagréable, mais avant mars, avril de l'année prochaine, puisque nous sommes déjà en novembre, qu'il n'y aura plus rien. Donc, c'est l'intérêt relatif, vu que votre fille a 17 ans et qu'elle aura 18 ans dans pas longtemps. Donc, il faut saisir le juge pour changer la résidence. Mais je vous dis, vu les délais, mais enfin, faites-le quand même. Au moins, saisissez parce que vous aurez le droit pour vous. Vous aurez fait la démarche, on ne pourra pas vous le reprocher. Vous voyez, Guy ?
Voilà.
Même si l'audience se fait tardivement, au moins, vous aurez fait le nécessaire. On ne pourra pas vous reprocher ça.
Ok, ben merci encore une fois Karine pour ce bon conseil. Voilà Guy, ce qu'il vous reste à faire. Merci de nous avoir appelé à Rognac.
Les experts tous les jours avec vous sur France Bleu Provence.
cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. C'est tout de suite, vous connaissez la version 2.0.
Ouais, mais j'ai plus de boules.
Comment t'as plus de boules? T'en avais qu'une.
Eh ouais.
T'es déconne pas, en principe, il y a deux boules, t'as deux boules.
Mais moi, il y a qu'une.
Bah, t'as qu'une boule, t'es monoboule alors, toi.
Ah, mais putain, ne me traite pas.
Casse-toi de là, monoboule.
Je connais des tas de gens qui dans la vie voient grand. Mais ce n'est pas un défaut, car il faut ce qu'il faut. Pour mon compteur, voyez-vous, il m'en faut pas beaucoup. Moi, mon rêve le plus fou se borne à cela et c'est tout. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon, au bord de le bord de la mer sur les roches. Vous vivez qu'il fait bon si la blague à son toit accroche. Son pavillon joyeux qui claque dans notre ciel bleu. Au beau milieu, une table, c'est tout. Oui, mais sur cette table, il y faudra surtout un bel aïoli, odorant et cordial, dont se régalera le gourmand provençal. C'est pourquoi ça me façonne. Je me dis là dans ma caboche. Le bonheur t'est mon bon, c'est un tout petit cabanon. Ton cabanon m'a soufflé Cupidon. Mais il sera plus joyeux quand vous y serez deux. Cela est mon vif désir si vous voulez venir. Il deviendra un château si nous y chantons en duo.
Un petit cabanon pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches.
À l'intérieur, une chambre, c'est tout. Oui, mais dans cette chambre, il faut un lit surtout. Et dans ce lit, un oreiller moelleux. Et sur cet oreiller, il faut deux amoureux. C'est pourquoi sans façon, je me dis là dans ma caboche. Le bonheur, t'es mon bon, c'est un tout petit cabanon. Le bonheur t'est mon bon, c'est un tout petit cabanon. C'est un tout petit cabanon. C'est un tout petit cabanon.
France Bleu Provence, le petit cabanon des quartiers nord. Séparation, droit de garde, adoption, question de religion concernant les enfants en cas de divorce. C'est la spécialité de notre experte, maître Karine Aroutunian. Elle est avec nous ce matin. Toutes vos questions, 04 42 38 08 08, on vous attend.
Vos experts reviennent dans un instant sur France Bleu Provence. Posez votre question au 04 42 38 08 08.
France Bleu.
Vous êtes passionné par le monde du football? Vous allez vivre un moment magique. La tournée du Ballon d'Or France Football s'arrête en Provence. France Bleu Provence vous offre la possibilité de toucher le Ballon d'Or France Football. Mercredi 13 novembre en matinée. Si vous rêvez de poser devant le trophée et rencontrer les journalistes de France Football, écoutez France Bleu Provence cette semaine. Rendez-vous à tout moment de la journée pour tenter votre chance et participer au tirage en direct ce vendredi 8 novembre, 18h50.
Vous pouvez aussi jouer en vous abonnant dès à présent au compte Instagram de France Bleu Provence.
Tous les mois, notre temps invite une personnalité à partager les bons plans et les belles adresses de sa région préférée. Ce mois-ci, de Brive-la-Gaillarde à Tulle, en passant par Mille Vaches, le romancier Christian Signol nous fait découvrir sa région, cadre de ses romans à succès. Tous les mois, Évasion en France, du magazine Notre Temps. Un coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
Le 11 novembre, le département des Bouches-du-Rhône vous invite à commémorer l'armistice de la Première Guerre mondiale. À partir de 15h, une grande cérémonie se déroulera au cimetière Saint-Pierre à Marseille pour honorer la mémoire des soldats marseillais morts au combat. Un moment de recueillement accompagné d'une chorale aura lieu devant la crypte militaire. Ce temps fort est placé sous le signe de l'hommage et du souvenir pour ne jamais oublier ceux qui sont tombés pour la France il y a plus d'un siècle.
Les experts, tous les jours, avec vous, sur France Bleu Provence.
Et ce matin, c'est Maître Karine Aroutunian qui répond à vos questions. Appelez-nous hein, si vous en avez au 04 42 38 08 08. Karine, vous me disiez qu'il y avait une réforme pour les enfants placés qui vient d'être passée.
Alors, elle n'est pas encore passée, c'est un projet de loi qui a été proposé par un confrère marseillais, d'ailleurs, qui s'appelle Michel Hamas, concernant donc, les difficultés de placement des enfants. Vous savez, mais le juge des enfants, en fait, a... tous les dossiers en même temps, c'est-à-dire qu'il doit à la fois gérer les enfants délinquants, parce qu'on a des mineurs délinquants, bien sûr, ce qui prend, je vais dire, 80% de son temps de travail, et le reste sont les enfants qui méritent d'être placés parce qu'ils ont des parents déviants, parce qu'ils ont des parents violents, parce que, voilà. Et donc, de fait, il passe plus de temps sur les enfants délinquants que sur les... Alors, la problématique, c'est que on a du mal à défendre ces enfants parce qu'on n'a pas beaucoup l'accès aux dossiers. Les dossiers rendus par l'assistance sociale à l'enfance nous sont communiqués généralement la veille, voire le jour même. Donc, c'est une difficulté. On ne peut pas poser de questions. On peut poser des questions au juge, mais il n'a pas l'obligation de nous répondre. Mais oui, il faut le savoir. Hein. Il n'a pas l'obligation de nous répondre. Et lorsqu'on fait appel d'une décision, mais écoutez, il se passe 6 mois et donc l'enfant est de nouveau replacé.
Ah oui, d'accord.
Et donc, on n'a pas... Voilà. Donc, ce confrère est suivi, je veux dire, par tout le barreau de Marseille, le bâtonnier de Marseille, Yann Arnoux-Polac, ce confrère a proposé des modifications techniques, en fait. On ne demande pas de modifier le fond des textes, on demande de pouvoir poser des questions au juge et qu'il ait l'obligation, par exemple, peut-on donner les enfants un week-end aux grands-parents ? C'est-à-dire que vous posez la question, il peut ne pas vous répondre et il n'y a pas de sanction.
D'accord. Alors,
il ne vous répond pas parce qu'il n'a pas le temps, il ne vous répond pas parce qu'il est débordé par les autres dossiers. Enfin, je ne suis pas en train de planter des clous dans le dos des juges. Hein.
Oui.
Mais voilà. Donc, ils n'ont pas on voudrait qu'il y ait un mois pour répondre et que la réponse, en fonction de ce qu'elle sera, on ait un délai d'appel seulement de 2 mois. C'est-à-dire que 2 mois après, on ait la réponse. Et que les dossiers de l'assistante sociale à l'enfance nous soient communiqués plusieurs jours à l'avance pour que le combat soit équitable et que les enfants qui sont... Parce que vous savez, les placements, des fois, on place un frère, une sœur, à Strasbourg, la sœur à Nantes, et les parents habitent Marseille.
Et, oui.
Et voilà. Donc, c'est vraiment une problématique intéressante. J'aimerais qu'un jour, peut-être qu'on puisse y attarder.
Et ça part du bon sens.
Et ça part du bon sens, exactement.
Merci pour cette précision.
Je vous en prie.
Bonjour, Sophie.
Bonjour.
Vous nous appelez de Manosque, Sophie.
Oui.
Et vous êtes en instance de divorce.
Voilà.
Alors, quel est votre problème ?
Alors, mon problème, je voulais savoir s'il y avait des nouvelles réformes qui vont toucher aussi les divorces, et savoir lesquelles.
Non. Alors, Karine.
Non, là, il n'y a pas de réforme sur le fond. Il va y avoir une réforme sur la saisine du tribunal, parce qu'on n'appellera plus ça le tribunal de grande instance, mais le tribunal judiciaire. C'est une réforme au niveau de la distribution, en fait, pas sur le fond. Alors, ça va un petit peu raccourcir les délais jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, parce qu'il faudra tout prévoir à l'avance, les liquidations. Mais c'est des réformes techniques. J'ai envie de dire que pour les gens, pour le justiciable qui vient dans notre bureau avec sa souffrance, avec ça, ça ne va pas lui changer grand-chose. Ça change pour les avocat, parce que c'est encore une nouveauté, qu'il faut encore changer tout, voilà. Mais pour vous, sur le fond, en fait, ce qu'ils veulent, c'est essayer de raccourcir les délais. Mais raccourcir les délais, ça veut dire qu'ils veulent nous faire sauter l'ordonnance de non-conciliation, ou la réduire, enfin... Et moi, je trouve pas que ce soit quelque chose... Pour l'instant, on verra ce que ça donne, hein, il faut pas hurler au loup, mais c'est pas judicieux. Mais je pense que la question de Sophie, si je peux me permettre, elle a une raison. Donc, vous êtes en instance de divorce, qu'est-ce qui fait que vous voulez savoir si ça va changer ? Est-ce que vous trouvez que c'est trop long ? Est-ce que vous trouvez... Qu'est-ce qui se passe pour vous, Sophie ?
Oui, pour moi, je trouve que c'est trop long. Effectivement, on peut ne pas comprendre, nous, en tant que particulier, pourquoi il y a une première procédure de non-conciliation.
Oui.
Pourquoi on ne pourrait pas appliquer tout de suite des mesures non provisoires.
Alors, je vais vous expliquer. Parce que quand on se marie et qu'on a des enfants, ça prend du temps. Et pour défaire une famille et défaire ce qui a été construit, il faut aussi du temps, il faut un temps de réflexion. L'ordonnance de non-conciliation, elle vous permet d'avoir des mesures provisoires qui vont régir la vie de votre votre famille pendant la procédure de divorce. Vous imaginez bien, si elles étaient tout de suite définitives, ça serait catastrophique. On a besoin de voir si ça va fonctionner, si vous avez la résidence de vos enfants avec un droit de visite et d'hébergement pour le papa, qui va payer le prix. On ne peut pas tout trancher en une fois, ça n'est pas possible. Si on veut trancher toi une fois, à ce moment-là, il faut divorcer à l'amiable, par consentement mutuel. Chacun prend son avocat, on détermine les conditions du divorce, qui va faire quoi, où vont les enfants, on détermine ça en bonne entente, on discute bien sûr entre avocats et avec nos clients, mais ça se fait plus rapidement. Mais quand il y a, entre guillemets, une guerre, c'est pas une vraie guerre, des fois ça peut être une guerre que sur les enfants, ou financière, etc., il faut le temps de défaire les choses. Et c'est souvent le temps, je dis à mes clients, n'est pas votre ennemi. Ça vous permet de voir arriver les situations, de les maintenir ou de les changer.
Donc voilà, Sophie. Voilà, Sophie, pourquoi ça prend autant de temps. Merci en tous les cas de nous avoir appelés. Bon courage à vous. On se retrouve dans un instant avec Karine Aroutunian qui est là ce matin pour vous. Appelez-nous au 04 42 38 08 08.
I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. Somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into night.
Capaldi, Someone You Loved sur France Bleu Provence.
Les experts répondent à vos questions en direct sur France Bleu Provence. Au 04 42 38 08 08.
Et on est là pour vous aider. Maître Karine Aroutunian répond à vos questions, à celles de Michel. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Marseille, Michel.
Oui, voilà, tout à fait. Je voulais savoir, mon beau-fils a fait une requête auprès du juge pour ne plus avoir l'hébergement et le droit de visite de ses enfants.
Oui.
Et, en même temps, diminuer la pension alimentaire. Mmh. Voilà. Parce qu'il estime que s'il les a plus, il n'a plus besoin de payer de pension alimentaire. Enfin, il peut diminuer sa pension.
Et pour vous ça, voulez savoir s'il a le droit?
Alors, je sais qu'il peut avoir, il a le droit, mais je voulais savoir s'il y a eu déjà des cas comme ça et comment ça aboutit, quoi.
Alors, Michel, oui. Alors, c'est ça, il y a des cas comme ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit de visite d'hébergement, c'est un droit, mais ça n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, la loi française n'oblige pas un parent à jouer son rôle de parent, à recevoir les enfants. Donc, en plus, vous imaginez bien, si on oblige un parent qui n'a pas envie de recevoir ses enfants, vous imaginez bien les conditions dans lesquelles ça va se passer. Donc, oui, il peut tout à fait dire, moi, je ne veux plus, et je demande la diminution de la pension. Alors, il n'y aura pas d'annulation de pension, parce que les enfants, il faut continuer à contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, chacun à hauteur de ses facultés respectives. Alors après, si des gens ont zéro revenu, ils sont au RSA, ils sont criblés de dettes, effectivement, il n'y a pas de pension. Mais après, ça va être examiné au cas par cas. Mais si le monsieur ne reçoit plus ses enfants, il veut demander la diminution de la pension parce qu'il ne les reçoit pas, ça ne va pas fonctionner comme ça. Parce qu'au contraire, quand vous ne les recevez pas, ça veut dire que la mère les a du 1er janvier au 31 décembre et qu'il ne les prend pas la moitié des vacances, etc. Donc il ne la soulage à aucun moment, qu'elle va devoir avoir des, faire garder, les mettre au centre aéré, etc. Donc, en principe, à moins qu'il ait eu une catastrophe financière, qu'il ait été licencié, qu'il se... Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est au cas par cas. Normalement, on ne va pas diminuer la pension parce qu'il ne les reçoit plus, c'est l'inverse. Vous ne les recevez plus, donc...
Ça, je pensais bien.
Souvent, ce qui se passe, vous savez, Michel, c'est lorsque les parents, par exemple, ont des petits revenus et qu'ils habitent loin, alors on ne met pas de pension alimentaire pour que le père puisse exercer son droit de visite et d'hébergement. Ou si le parent habite dans des îles françaises ou qu'il faut qu'il paye des billets d'avion. Mais là, si... Voilà, donc ça sera, je vous dis, parce que ces éléments-là, moi, je les maîtrise pas parce que je ne les vois pas, vous ne me les donnez pas. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est en fonction de votre question. Mmh. Et je peux vous dire sous toute réserve que normalement, oui, il peut arrêter son droit de visite hébergement, mais diminuer la pension parce qu'il n'exerce plus, non. Il faut que ce soit une autre motivation.
Bon. Voilà, vous avez la réponse à votre question, Michel. Merci beaucoup.
Alors vous avez déjà connu des cas.
Ah oui, je l'ai fait moi-même. J'ai enlevé, le père a demandé à ne plus voir ses enfants, et par contre, il a augmenté la pension. Il ne recevait plus son enfant. Mais il recevait, il a augmenté la pension. Il a dit, je ne la prends pas, mais je contribue.
C'est incroyable.
Chacun son histoire, Michel, vous savez. Si j'avais l'occasion de vous raconter, mais chacun son histoire. Sur le papier, c'est incroyable, mais...
Voilà. Merci.
Je vous en prie.
Merci, Michel, de nous avoir appelés. Bon courage à Marseille. On a eu des appels ce matin. Le temps qui file, qui passe. Merci beaucoup, Karine Aroutunian. C'est toujours un régal de vous avoir parce que c'est vrai que c'est clair, c'est précis. On comprend les choses mieux. Merci pour ces précisions, en tous les cas, sur le prochain décret. C'est très intéressant et on espère pouvoir en reparler prochainement.
Eh bien, on fera ça.
Avec grand plaisir. Demain, votre place, c'est au SINSEQ. Diététicien, nutritionniste qui sera là et vous pourrez l'appeler bien évidemment. Tout de suite, on cuisine les fruits à coque avec Françoise Jaubert, productrice en bio d'amandes sur le plateau de Valensole.
Les gens me demandent, enfin Chantal, qui sont toutes ces personnes qui défilent chez vous? Je suscite tellement le fantasme. Mais ce sont juste les équipes Akena qui posent ma véranda. Ils suivent le projet pas à pas de la conception à l'installation. Car chez Akena, ils sont disponibles, présents, prévenants. Et moi j'adore les petits gars comme ça. Mais n'allez pas le répéter, hein, sinon ça va encore jaser. Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
On a tendance à penser que pour être mieux protégé, il faut payer plus. C'est une erreur. Avec la nouvelle complémentaire santé solidaire, l'accès aux soins médicaux pour tous n'a jamais été aussi large, aussi simple et si peu coûteux. C'est un vrai progrès.
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, rendez-vous sur amélie.fr pour faire une simulation ou appelez le 0800 971 391 du lundi au vendredi.
L'assurance maladie.
0800 971 391, service et appel gratuit.
France Bleu présente Le Grand Bleu en ciné-concert. Le film culte de Luc Besson pour la toute première fois en tournée. Le Grand Bleu. Pour célébrer les 30 ans du film, le compositeur Éric Serra et ses musiciens interprètent sur scène la bande originale pendant la projection. Une expérience immersive exceptionnelle. Le Grand Bleu en ciné-concert. Du 4 au 31 mars 2020, en tournée dans toute la France. Et dimanche 22 mars à Paris, au Palais des Congrès. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Très belle matinée, il est 10h. France Bleu Provence. Alors ça ça va un tout petit peu mieux sur la route puisque les gros bouchons de ce matin se sont quelque peu dispersés. On roule maintenant sur la 57 à la Valette du Var pour rentrer dans Toulon. C'est toujours compliqué toutefois sur la 50 en venant d'Aubagne pour rentrer sur Marseille. C'est compliqué également sur la 7 des Pennes Mirabeau pour aller à Vitrolles et des Pennes Mirabeau de Septèmes-les-Vallons pour venir sur Marseille. C'est toujours extrêmement compliqué en revanche de rentrer sur Aix-en-Provence depuis le nord, c'est-à-dire la descente de Célonie, les Platanes où c'est encore extrêmement embouteillé. En revanche sur la 8, ça va mieux en direction de Salon de Provence. Et puis c'est dans le centre de Marseille où c'est vraiment très très embouteillé sur plusieurs boulevards. Soyez prudents et je vous rappelle, vous nous appelez au 04 42 38 08 08 si vous voyez quoi que ce soit. Le temps, Florent, bah c'est parti pour un mardi ensoleillé.
Quelques nuages aussi, mais inoffensifs. Hein. Les températures sont en baisse, mais restent.